Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Salut, c'est Mimi Hegel. Dans la vie, je suis créatrice de contenu indépendante sur Internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter et sur Patreon sous le même at, à savoir MYMYHGL. Les podcasts disponibles ici sont principalement des replays de mes lives Twitch. C'est pour ça que j'interagis avec le chat et que j'évoquerai parfois des éléments visuels que vous ne voyez pas. Merci de soutenir mon travail et bonne écoute.
Oh my god, Internet, ça va ou quoi?
C'est quoi le problème? Je suis un peu zinzou? Ceux qui savent, savent. J'ai besoin de contexte.
J'espère que vous êtes ready pour la dingue.
Pas la peine d'être désagréable.
Et y a pas de naninana, non. N'hésitez pas à vous abonner.
Ok. Dimanche, j'ai fait un truc de fou. Je vous en avais parlé sur cette chaîne, si vous êtes fidèles du stream. J'avais été invitée à un lieu qui s'appelle la Maison de la Conversation, dans le 18e, qui est un lieu, si j'ai bien compris, mi-service public, payé et géré par la mairie, mi-avec des partenaires financiers, comme bah, par exemple, il y avait un studio de danse Adidas avec un gros néon Adidas. Il y avait un genre de truck, je croyais que c'était un food truck, mais c'était un truc de Radio Nova. Pour, je crois, les beaux jours, ils vont passer de la musique mixée et tout. Et l'idée, c'est d'avoir un lieu de quartier où il se passe plein de choses culturelles, associatives, voilà, pour faire de la vie de quartier, réunir les gens, parler des problématiques du quartier. Donc, si jamais vous n'êtes pas familier et familière de Paris, le 18e, c'est un arrondissement assez populaire, avec une population assez variée. Il y a pas mal de HLM, ma tante habitait là-bas avant. Il y a pas mal de populations immigrées ou descendantes d'immigrés, et c'est pas les beaux quartiers de Paris, même s'il y a Montmartre et tout, qui est vraiment très touristique et bobo, mais c'est aussi, enfin, tout Paris se gentrifie, donc il y a plus vraiment de quartier qui craint. Même mon quartier à moi, le 19e arrondissement, c'est là où il y a Stalingrad, c'est là où il y a Porte de la Chapelle, donc on peut avoir une idée un peu où là, c'est là où il y a les personnes toxicomanes et tout. Alors oui, en partie, mais c'est aussi là où il y a le parc de la Villette, là où il y a un canal avec petite brasserie, la Panam Brewing Company à côté. À Stalingrad, il y a la Rotonde, qui est un lieu voilà, où il y a des DJ qui mixent, il y a des marques qui font des événements et tout. Et il y a à la fois une population variée, mais aussi que ça se gentrifie quoi, fort. Bref. Donc j'étais dans ce lieu dans le 18e, qui est un lieu qui est pas tout à fait fini. Il y a des choses qui sont encore en construction, mais qui a vraiment déjà une très belle gueule et d'immenses baies vitrées qui donnent sur un mur de végétation avec un mur en briques derrière qui, je crois, fait la liaison avec le périphérique, enfin protège du périphérique. Franchement, j'étais là, c'est beau, il faisait beau et tout, j'étais ravie. Et j'ai été invitée à, en gros, l'idée c'est la bibliothèque vivante. On invite 5 personnes, ici c'était 5 femmes inspirantes, merci, qui deviennent un livre et qui du coup racontent des trucs à des gens. J'étais là, ok, d'accord. En vrai, je trouve ça poétique, donc j'ai envie de dire oui, mais je n'ai pas exactement une idée très concrète de ce que ça veut dire. Mais j'ai dit oui parce que je suis dans la Yes Life. Quand on propose un truc, je suis là, ouais, ok, on va voir. Si jamais ça ne me plaît pas, je ne le referai pas. Et aussi, parler à des gens, c'est toujours cool. Du coup, on m'avait demandé, l'équipe organisatrice m'avait demandé d'écrire une quatrième de couverture du livre de ma vie que j'allais raconter, vous l'avez, et de choisir un peu un thème. Et en gros, donc, j'avais fait un appel avec l'équipe qui organise ça pour comprendre un peu plus de quoi ça s'agit. Et elle m'avait dit, en gros, tu racontes ta vie ou une partie de ta vie, en tout cas, voilà, tu choisis un thème qui te parle et tu racontes ton expérience autour de ça, idéalement sur la structure d'un récit. Donc, situation initiale, élément perturbateur, péripétie, élément de résolution et conclusion slash leçon morale de fin et tout. Et du coup, j'avais choisi comme thème la liberté. Attendez, je vais vous lire ma quatrième de couve. Je vais pas vous lire le reste parce que ça va, calmons-nous. Donc, liberté non négociable. C'est le titre du roman de ma vie. De quoi veux-tu parler à nos lectrices et lecteurs? D'être une femme libre. Une réponse instinctive comme une évidence. Mimi Hegel n'a pas toujours été libre, entravée par la timidité et l'anxiété, on en avait parlé. Par son genre et par ses peurs, elle a découvert la liberté du bout des orteils avant de s'y plonger franchement avec délice. Libre dans ses relations amoureuses et sa vie professionnelle. L'indépendance, la relation libre, vous l'avez. Libre de ses idées et de ses valeurs, elle vous propose de partager un morceau de sa liberté. Donc,
ça, c'était le pitch de... En gros, je, voilà, c'était ma façon de dire, j'ai envie de vous parler de liberté. Et après, j'ai écrit un truc que je vais pas vous lire parce que c'est long et que aussi c'est un peu gênant de vous lire à voix haute des trucs que j'ai écrits. C'est la vulnérabilité, n'est-ce pas? Donc j'ai écrit un truc autour de voilà comment j'ai commencé. Donc situation initiale, je suis pas libre parce que j'ai pas toujours été très libre et que j'étais une enfant, une adolescente assez angoissée, assez anxieuse et très paralysée en fait par la peur. Et une jeune adulte aussi. Mes années d'étudiante, c'était beaucoup de foutre la tête dans le sable et me sentir en échec parce que j'ai l'impression de pas savoir faire des trucs que les gens savent faire, comme je sais pas, faire ses papiers par exemple. Mais au lieu de faire ce truc normal de dire je sais pas faire, est-ce que quelqu'un peut m'apprendre, paralysie totale de c'est moi qui suis inapte parce que les gens ils savent faire ça, donc si je sais pas faire ça c'est mon problème. Bref, du coup j'étais pas très libre et c'est beaucoup le féminisme qui m'a libérée. Donc chez Mademoiselle à la fois il y avait le féminisme et ouvrir et enrichir ma culture et mes valeurs féministes qui sont quand même des valeurs de liberté et de liberté notamment des codes genrés et des stéréotypes de genre. La découverte de la relation libre qui est quand même un gros facteur dans ma vie. Donc si jamais vous n'avez pas les bails et que vous n'étiez pas là pour mon super live relation libre que vous pouvez retrouver en replay et en podcast, c'est une forme de couple ouvert dans lequel on a un seul partenaire amoureux qui est donc mon amoureux Nodius, mais dans lequel l'exclusivité physique n'est pas de mise, donc on a le droit d'avoir des relations sexuelles avec d'autres gens tout simplement. Et c'est mon mode de relation depuis que j'ai découvert que ça existe, à savoir 11 ans maintenant, grâce à un mec que j'ai rencontré quand j'avais 20 ans, donc la même année où je suis arrivée chez Mademoiselle et tout, et c'est lui qui m'a littéralement appris que ça existait parce qu'on me l'avait pas dit. Et j'ai fait « Ah, yes, c'est ça en fait qu'il me faut !» plutôt que de me forcer à l'exclusivité et de peut-être finir par tromper mes mecs parce qu'en fait c'est pas mon truc et je suis désolée, mais juste on m'avait pas dit qu'on pouvait faire autrement. Donc voilà, je me suis dit que j'allais raconter situation initiale, je suis pas très libre, élément perturbateur, j'ai 20 ans, ma vie change, j'arrive chez Mademoiselle, péripétie, je développe ma liberté à plein d'aspects, donc relation libre, ma liberté de penser, d'être qui je veux être, ma liberté d'oser faire des choses et de surmonter mes peurs. Et parce que au pire, si ça rate, c'est pas très grave, qu'il y a un vrai truc que j'ai appris chez Mademoiselle et avec la confiance de Fabrice, bien sûr, qui a vraiment eu un rôle de mentor pour moi et qui a été le premier à me dire « fais des trucs, c'est cool quand tu fais des trucs », et de toute l'équipe, bien sûr. Pour moi, ce qui entravait ma liberté, c'était la peur de faire des choses ou de mal faire des choses ou de rater des choses. Et du coup, apprendre à faire des choses et à les réussir, mais aussi parfois les rater, et c'est pas très grave, parce qu'on apprend aussi de l'échec, ça m'a beaucoup libérée. L'aspect relation libre et maintenant et en finissant un petit peu sur la liberté professionnelle puisque ça fait un an un an et 15 jours que je suis dans le grand bain de l'indépendance, que j'ai quitté le salariat et que du coup bah bien sûr ça va avec une forme de précarité, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et des contraintes différentes, mais ça va avec quand même, c'était un peu l'idée, plus de liberté de par exemple tous les lundis matin vous parler de ma vie en lisant Reddit plutôt que de faire des réunions en open space avec des PowerPoint. Genre c'est pas grave hein, j'ai bien aimé les faire bien aimé les faire pendant longtemps, Donc j'avais écrit un truc autour de cette idée de devenir libre de plus en plus et comment j'en suis arrivée là et tout. Et en même temps, c'est genre semi-rédigé, c'est un peu des idées et des... Est-ce que je vous lis un extrait? Est-ce que j'ai un extrait que je peux vous lire sans avoir vraiment trop envie de crever, quoi? Ok. Donc là, on est dans péripéties. J'ai 20 ans et on est en 2012. Internet bruisse de termes nouveaux et d'idées pas si neuves. Une nouvelle génération met un coup de polish sur le combat ancestral contre le patriarcat. Je comprends que mes peurs ne sont pas les miennes, qu'on me les a données, inculquées, enfoncées de force dans le crâne, qu'elles sont genrées, souvent, et injustifiées, tout le temps. Que personne n'a reçu le petit manuel de l'adulte parfait et que tout le monde est dans la même galère à se demander si c'est bien comme ça qu'il faut faire. Je prends un risque et je réussis. Je pars loin, seule, pour un travail, pour le féminisme, pour moi. Je deviens quelqu'un parce qu'on voit qui j'étais déjà, on me voit. Ça c'est « J'arrive chez Mademoiselle ». Je ne vais pas tout vous lire parce que c'est un petit peu bizarre pour moi comme exercice. Mais en fait, c'est plus rédigé que dans mon souvenir. J'ai évidemment préparé ce texte dimanche à midi alors que l'événement était dimanche à 15h car je suis un connard. Mais guess what, à la fin, ça fonctionne. Donc, oh non, j'ai vraiment mal fait de jouer à Zelda tout samedi au lieu de préparer ça. Et du coup, j'avais préparé ce texte. Mais les organisatrices m'avaient dit, en fait, c'est aussi un moment d'échange et un moment d'interaction. Donc c'est pas forcément toi qui lis un truc et la personne qui dit rien en face et qui applaudit à la fin. Ça peut être une discussion avec la personne sur pourquoi elle a choisi de venir te voir, qu'est-ce que ça lui évoque, les thèmes que tu veux évoquer, donc notamment bah la liberté, qu'est-ce que ça lui a inspiré et tout. J'étais là, ok, donc il y a quand même du dialogue. Donc en fait, ok. Et je savais que ça allait être du one-to-one, c'est-à-dire c'est pas les cinq, donc il y avait cinq femmes, cinq livres vivants comme moi, qui venaient toutes parler avec un angle, voilà, d'un aspect de leur vie. Et c'était pas genre on est toutes les cinq sur scène et on parle et on lit nos trucs et les gens nous posent des questions. C'est on est chacune isolée dans un endroit. Moi j'étais dans la fameuse salle de danse Adidas avec une barre de pole dance que je n'ai pas essayé, car rappelez-vous que Mimi quand elle tombe elle se fait très mal, donc j'ai évité de me casser la cheville à trois minutes d'un événement. Et les gens venaient, donc les gens qui s'étaient inscrits venaient et choisissaient soit une, soit plusieurs livres, soit un, soit plusieurs livres vivants à consulter. Je pense que tous les gens qui sont venus ont vu tout le monde, de ce que je comprends, parce qu'en fait, t'y vas, c'est, enfin, t'as pas de raison de dire non, mais cette personne, elle m'intéresse pas, quoi. T'es curieux une fois que t'es là. Et ça a duré 3 heures, et en 3 heures, j'ai vu, je vais vous en parler, j'ai vu 5 personnes ou groupes de personnes, ce qui, à raison de 20-25 minutes par personne plus. Des petites pauses à droite à gauche, bah ça remplit 3 heures easy. Et donc voilà, moi j'avais ce thème de la liberté, je me suis installée dans une salle de danse Adidas et j'ai attendu. Et mes premières lectrices sont venues parce que du coup le premier groupe que j'ai eu c'était 3 jeunes femmes qui ont demandé si elles pouvaient venir ensemble et moi j'étais là oui ça me dérange pas. Et du coup on a en fait j'ai pas lu mon truc mais j'ai utilisé les thèmes et les idées qu'il y avait dans ce que j'avais écrit, notamment cette idée de pour moi la liberté était entravée par la peur et c'est apprendre à faire les choses qui me font peur qui m'a inculqué cette liberté, mais aussi des thèmes de liberté spécifiquement féminine et féministe, de liberté dans le couple, de liberté professionnelle. Voilà, j'avais plusieurs éléments que j'avais noté dans ça rentre dans le schéma de la liberté et je me suis dit je vais enfin et du coup c'est de ça dont j'ai parlé avec les gens. Donc ce premier groupe de 3 jeunes meufs, je pense qu'elles avaient 25 ans par là, arrive et du coup on commence à parler et je leur dis OK qu'est-ce que c'est quoi pour vous comme sujet la liberté dans votre vie? Est-ce que vous vous sentez libre? Est-ce que c'est une prise de tête? Est-ce que c'est important, etc. Et les 3 avaient des récits assez différents. Donc il y en avait une qui voulait, une de ces jeunes femmes voulait parler plutôt de voilà de la liberté dans les relations et de pas être en dépendance affective envers les gens et notamment les hommes. L'autre avait un peu des problématiques de j'ai du mal à être qui je suis dans mon travail parce que c'est un travail où il y a peu de femmes et du coup j'ai l'impression d'être toujours surjugée, que si je rate on va dire que c'est les femmes qui ratent, et aussi genre par exemple elle m'a dit j'aimerais bien ne pas porter de soutien-gorge mais j'ose pas trop au travail et tout. Et l'autre c'était il y en avait 2 qui avaient un thème similaire de je me suis sentie plus libre ailleurs, genre je suis partie un moment dans un autre pays faire une expérience de type visa vacances travail woofing et tout, et je me suis sentie hyper libre là-bas parce que personne me connaissait, parce que je pouvais être qui je voulais et qui je suis, et revenir en France ça a entravé cette liberté à la fois pour des raisons de on reprend sa vraie vie et on est entouré de gens qui nous connaissent, et à la fois pour aussi des raisons parfois de spécificités culturelles de type le harcèlement dans l'espace public et des choses comme ça. Donc on a parlé de ça, et moi je leur ai parlé de... Du coup, c'était vraiment un échange, quoi. Et moi, je leur ai parlé de mon rapport à la liberté. J'ai parlé un petit peu, je pense, relation libre, du coup. Un petit peu de comment... En gros, pour moi, la liberté d'être sa propre personne et de pas avoir peur d'être jugée, c'est vachement libérateur, justement. Donc c'est un peu genre... Tu peux te libérer du regard des autres, c'est compliqué, mais tu peux. On s'en libère peut-être jamais totalement, mais on peut essayer de se libérer du regard des autres, et une fois qu'on est libre du regard des autres on est beaucoup plus libre d'être qui on veut parce qu'on n'a pas peur d'être jugé pour qui on veut, pour qui on est. Et on a parlé d'amour aussi pas mal, du fait que parfois on a du mal à se montrer tel qu'on est aux personnes qu'on aime, et notamment dans un cadre romantique. Et j'ai encore ressorti cet extrait de poème qui me flingue à chaque fois qui est The Mortifying Ordeal of Being Known. Je vais vous le faire en anglais, après je vais vous le traduire. Donc ça vient d'un essai que Tim Kreider a écrit pour le New York Times, et c'est une citation qui dit « If we want the rewards of being loved, we have to submit to the mortifying ordeal of being known. » Ce qu'on peut traduire par « Si nous voulons les récompenses du fait d'être aimé, nous devons nous soumettre à la mortifiante épreuve d'être connu, d'être vu tel qu'on est. » Alors. On revient à la maison de la conversation. Cadlo me dit « Peut-être que j'ai pas compris, mais du coup les lectrices peuvent discuter avec toi. Ce n'est pas juste un livre qui partage une expérience. » Oui, c'est ça. Ça aurait pu, en gros, c'est un peu à la carte. Ça aurait pu être si les personnes qui sont venues avaient préféré, ou si moi j'avais préféré, ça aurait pu être beaucoup plus moi qui lis un truc et elle, à la limite, qui me disent à la fin en quoi ça a résonné en elle. Moi, j'aime bien le dialogue, j'aime bien l'interaction, par exemple, je suis sur Twitch. Ça me semblait je pense que ça m'aurait semblé un exercice un peu bizarre de juste être dans une pièce et il y a quelqu'un qui rentre et je lui lis un truc que j'ai écrit sur mon téléphone et après on en parle. Mais parce que c'est un peu la vulnérabilité, comme je vous ai dit, de lire à voix haute ce qu'on a écrit. Du coup, voilà, il y avait un échange avec moi. J'aurais fait l'exercice de juste lire mon truc si ça avait été entre guillemets ça le concept. Là, le concept c'était un peu faites ce que vous voulez, parlez si vous voulez, interagissez si vous voulez. Et du coup, j'ai plutôt eu des discussions. Et du coup, en gros, j'ai passé mon dimanche à parler avec des inconnus de façon ultra deep pendant 20 minutes. Et après, on se reverra jamais. Et j'étais là, waouh, c'est un moment de vie incroyable. Donc avec ces trois jeunes meufs, on a parlé de ces trois sujets-là, de la liberté d'être qui on est, de la liberté affective, tout ça. Ensuite, il y a eu une personne, une jeune femme qui vient d'Espagne et qui vient d'emménager en France. En gros, elle a passé quelques années en France déjà et elle est repartie en Espagne. Et là, elle vient de revenir pour s'installer définitivement. Où on a plus parlé pour le coup de sujets féministes et liés intrinsèquement à sa vie de femme et de personne queer, puisqu'elle est actuellement en couple avec une femme, et que c'était un sujet de « je me sens pas libre de vivre mon couple dans la rue parce qu'il y a des gens qui nous disent des trucs, je me sens pas libre de sortir en mini-jupe parce que y a le harcèlement dans l'espace public et tout ». Donc j'étais un peu en mode « yes, sorry for la France ». Surtout que j'étais récemment en Espagne, à Malaga, n'est-ce pas, avec ma copine Fanny, et l'an dernier on avait été à Séville, et on s'était déjà fait la réflexion, c'est trop bien, il n'y a pas de harcèlement de rue. Alors il y en a sûrement, hein. Il n'y a jamais de risque zéro, mais on est ultra tranquille, on était deux meufs, en jupe, en short, en crop top, parce qu'il faisait hyper chaud, surtout à Séville, en mini débardeur, en bikini, à se poser sur des bancs pour boire des bières et fumer des clopes, ce qui est une situation où en France, peut-être pas toutes les meufs, et peut-être que ceux du chat qui ne sont pas des meufs ne le savent pas, se poser sur un banc, c'est une question. Genre, je me pose jamais sur un banc. Et en tant que meuf, t'as un des mécanismes de défense face au harcèlement dans l'espace public, c'est d'être toujours en mouvement, de jamais s'arrêter. Si tu t'arrêtes, tu deviens un genre de centre gravitationnel, un trou noir à relou, où ça leur donne l'occasion de te repérer, de venir te voir. Souvent, tu les vois venir à 4 km et t'es là, ça va être pour ma gueule, ça. Donc, une des stratégies d'évitement du harcèlement dans l'espace public, c'est de ne jamais être immobile. Et pour moi, m'asseoir solo sur un banc, c'est une chance sur deux que dans les 10 minutes, il y a un gars qui vienne s'asseoir à côté de moi et qui me fasse chier. Même s'il est poli, etc., même s'il me fait des compliments. En fait, je m'en bats les couilles, j'ai pas envie de lui parler, j'ai pas envie de son avis sur mon physique, j'ai pas envie de faire connaissance. Parce que sinon, guess what, il serait allé parler à d'autres gars, c'était juste pour se faire des amis. Donc, it's no from me. Bref, je suis en train de monter en tour. Et en Espagne, effectivement, on n'avait pas du tout vécu ça. Donc j'étais désolée envers cette jeune femme que, en venant en France, elle découvre un peu plus intimement le harcèlement dans l'espace public. Il y avait aussi des questions de, elle a du coup laissé ses proches et tout derrière. Donc elle m'a dit, j'ai à la fois la liberté de... En fait, j'ai pas ma famille à côté, je peux faire ce que je veux de ma vie, et je connais personne, donc en fait, je peux aller me balader coiffée n'importe comment, en pyjama si j'ai envie, c'est pas grave. Et en même temps, je connais personne, donc en fait, j'ai pas de soutien si j'ai un problème, je sais pas qui appeler et tout. Donc c'était intéressant, et on a parlé, j'ai essayé de lui conseiller un petit peu des lieux LGBTQ à Paris, notamment si vous êtes une personne queer ou une femme queer à Paris, à la Mutinerie, qui est... emblématique bar et lieu lesbien notamment, mais pas que, et qui fait des soirées, des expos, des choses comme ça, qui est régulièrement en danger, menacé de fermeture, donc si vous avez l'occasion de soutenir la Mutinerie, n'hésitez pas, et aussi des lieux pour les personnes immigrées, et notamment, j'imagine, il doit y avoir des groupes de discussion, des bars où la communauté espagnole de Paris se rejoint et tout, ce qui peut aussi faire du bien de parler à des compatriotes, même si on s'est expatrié par choix. Donc voilà, on a parlé un petit peu de ça. Elle était très douce, cette meuf. J'ai trop aimé. Et voilà, enfin, je la connais pas. Elle arrive, elle me parle de tout ça. J'essaie de lui donner des conseils. Et après, elle part. Et on se revoit jamais. Je suis là, waouh, incroyable expérience. Après, il y a eu deux gars. Un après l'autre. J'étais contente qu'il y ait des hommes parce que comme... En fait, parfois, les événements autour des femmes inspirantes, ça inspire beaucoup les femmes. Mais on voit pas toujours beaucoup d'hommes aux événements un peu brandés féministes et tout. Sauf quand on dit, c'est en non-mixité, vous pouvez pas venir. Auquel cas, ils ont tous décidé que c'était leur priorité. J'ironise un peu, mais ça arrive. J'étais déjà très heureusement surprise. Souvenez-vous, en novembre, j'avais eu la fierté d'intervenir aux premières assises nationales de lutte contre les violences sexistes qui étaient à Nantes. Parce que c'est le 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et il y avait plein d'invités divers et variés, invités et ES, mais aussi invités et S. Et moi, j'étais venue pour parler de... l'amitié homme-femme post-MeToo, en gros. Donc j'étais déjà venue pour parler d'amour hétéro-féministe en rapport notamment au fait que, souvenez-vous, j'ai fait un livre sur le sujet, Ils vécurent heureux, guide de survie d'une féministe en couple hétéro, disponible dans toutes les bonnes librairies, ainsi que dans les bonnes bibliothèques, ainsi que en e-book, ainsi que en audiobook. Ce n'est pas moi qui le lis, j'aurais bien aimé, mais guess what, c'est un métier de lire des audiobooks, donc c'est normal que les gens dont c'est le métier le fassent. Je l'ai lu, bravo Crushtet, tu es une personne de goût. J'ai une dédicace, c'est très vrai. J'ai dédicacé ce livre à beaucoup de mes amis et amies. Si jamais vous l'avez et que vous voulez une dédicace, venez me voir à l'occasion d'un événement et je vous le dédicacerai avec plaisir. Rebonjour Birdseye, et effectivement merci Mintara pour le sub-gift. Welcome dans la commune des subs Birdseye, tu as maintenant un petit tournesol en train de pousser à côté de ton pseudo, j'espère que tu es ravi. Et coucou Nécronicard. Donc, aux Assises Nationales de Lutte contre les Violences Sexistes, j'ai été intervenue l'année précédente lors du Printemps des Fameuses à Nantes, qui est un événement féministe, pour parler d'amour post-MeToo, d'amour hétéro dans une perspective féministe. Et j'ai été réinvitée, à ma grande fierté, pour parler d'amitié homme-femme. Alors, post-MeToo, on n'a pas tant parlé de MeToo, mais en gros, c'est quoi les amitiés homme-femme, à quoi, comment le féminisme a impacté nos amitiés. Et j'avais capté ma conférence et je vous l'avais diffusée sur cette chaîne. Donc, il y a le replay qui est dispo, c'est aussi dispo en podcast. Et j'avais déjà été très contente de constater qu'il y avait beaucoup d'hommes à cet événement qui venaient assister aux différentes tables rondes, qui venaient sur les stands, qui s'intéressaient, quoi. Et c'est toujours cool de voir que, enfin, on est ensemble, quoi. Let's go. Donc là, j'étais contente lors de cet événement hier à la Maison de la Conversation de qu'il y ait deux hommes qui viennent me voir et que ce soit pas que des femmes, parce que je trouve que c'est toujours intéressant. Et alors c'est marrant, le premier gars qui est arrivé, un peu costard, petite beubard et tout, un peu sûr de lui. À un moment, il m'a mentionné qu'il vient d'une banlieue chic de Paris, donc qu'il est pas trop habitué au 18e et tout, donc un peu assuré, vous voyez. Et il m'a vachement plus posé de questions que... Enfin... Il a plus creusé moi que moi j'ai creusé lui, mais j'étais là, ok, ça fait aussi partie du deal, genre on en fait ce qu'on veut de ce moment. Mais j'ai remarqué que par rapport aux femmes d'avant, il avait plus de mal à parler de lui, quoi. Souvent je lui posais une question et il me répondait assez rapidement, il était là, mets-toi à temps, parce que t'as dit un truc et ça m'intéresse et tout. Donc bon, ça fait plaisir, hein, mais c'était rigolo de voir un peu la différence. Il était un peu plus, je pense, en protection, quoi. Et ben, on a parlé de liberté, et alors c'était trop intéressant, parce que... alors on a parlé notamment de liberté relationnelle, de relations libres, de... On a parlé de différentes façons de challenger l'exclusivité dans le couple pour maintenir sa liberté. Il m'a confié des choses sur lui que je ne raconterai pas parce que c'est privé, mais j'étais là, information intéressante à avoir sur un homme que je ne connaissais pas il y a deux minutes et que je ne reverrai jamais. Et il m'a... En fait, c'est marrant parce qu'on s'est rendu compte. Donc moi, ma perspective, comme je vous l'ai dit, c'est avant, j'avais beaucoup plus peur et du coup, je me sentais beaucoup moins libre. Et... L'échec me libère, en fait. Enfin, parce que pour moi, la victoire, c'est faire le truc qui me fait peur. C'est pas réussir le truc, c'est faire le truc, alors que j'ai peur de le faire. C'est déjà ça, la victoire. Alors après, bien sûr, si j'échoue, j'ai le seum. Y a pas de problème. Je suis humaine, j'ai des émotions, et parfois, l'échec peut avoir des conséquences, je sais pas, financières ou whatever, quoi. Émotionnelles, tout ça. Mais je ne m'arrête pas à « j'ai raté », parce que j'ai en tête « j'ai déjà réussi, je l'ai fait, quoi ». Et peut-être je l'ai raté, mais je l'ai fait. Et du coup, moi, c'est ça ma perspective par rapport à la peur et par rapport à l'échec, c'est que ça me libère plus qu'autre chose de tenter quelque chose, même si je le rate. Et lui, il m'a dit, bah moi, c'est l'inverse. En fait, je suis une personne plutôt hyper spontanée, mais quand je me suis pris des échecs et la vie m'a mis un peu des claques. Et du coup, bah c'est ces échecs-là qui me rendent moins libre. En fait, je suis moins libre qu'avant parce que j'ai échoué des trucs. Et moi, j'étais là, ok, je pense que je suis plus libre qu'avant parce que j'ai échoué des trucs. Donc c'était grave intéressant. Mais vous voyez, genre le niveau de dépris des conversations qu'on a. Avec des gens que je connais ap du tout, quoi. Donc, on a eu cette conversation avec ce gars-là qui était hyper intéressante. Et après, il y avait un autre gars, plutôt cadra, qui a mentionné qu'il avait un enfant de 8 ans, qu'il élève en garde partagée avec la mère de l'enfant qui n'est plus sa compagne. Et lui, il était...
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Alors, je sais pas ce qu'il fait dans la vie, un peu dégaine, en vrai, un peu dégaine de prof. S'il m'avait dit, je suis prof, genre collège ou lycée, j'aurais fait, ok. Mais je pense pas que c'est ça. Lui, on a plutôt parlé de la sociétaire, la saucisse, dans laquelle on vit. Puisque, donc, à chaque personne qui arrivait, je lui demandais, ok, bah, moi, je voudrais qu'on parle de liberté. Qu'est-ce que ça t'évoque, la liberté? Est-ce que tu te sens libre? Et lui, il m'a dit, je me sens pas libre parce qu'il y a la société de consommation, parce qu'il y a ce monde auquel j'ai pas envie de participer, mais j'ai pas le choix. Il y a le capitalisme. Il m'a mentionné qu'il est syndiqué, délégué syndical CGT dans son entreprise et tout, enfin sur son lieu de travail, je sais pas ce qu'il fait dans la vie, mais voilà, lui, ce qui lui entrave sa liberté, selon lui, c'est des choses très macro, très systémiques, de le système dans lequel on vit, quoi. Donc c'est plus compliqué, entre guillemets, d'avoir l'impression d'agir contre ce système et de s'en libérer, puisque on est tous et toutes dedans, quoi. et que bah on peut pas décider unilatéralement, genre il y a plus besoin d'argent pour vivre et j'ai pas besoin de travailler. On peut pas sortir du capitalisme juste parce qu'on l'a décidé. On peut pas changer le paradigme à soi tout seul, mais on peut déjà changer de prisme de vision, se créer son propre, peut-être cultiver son propre jardin et sa bulle, sans dire qu'on se désengage du monde, mais s'épuiser à lutter contre quelque chose qu'on ne peut pas abattre seul, c'est pas non plus, enfin c'est comme ça qu'on finit en burn-out militant, quoi. C'est pas non plus, je pense, la panacée. Et du coup, bah on a pas mal parlé du fait que, notamment être délégué syndical, et il m'a dit, du coup, je fais chier un patron. Et je crois que ça me libère. J'étais là, I get it, frère, ça fait du bien de faire chier un patron de temps en temps. Que du coup, agir de cette façon, bah, ça lui donne du coup un sentiment de ne pas être complètement entravé par le... Enfin, voilà, il lutte contre le système qui l'entrave à sa façon, et être acteur de ce changement, même à l'échelle juste, entre guillemets, du syndicat CGT d'une boîte, bah, ça aide à ne pas se sentir juste complètement submergé et oppressé par la saucisse. Et il m'a confié aussi des trucs assez intimes sur lui et son passé et des moments durs de sa vie. Et alors lui, c'était trop intéressant parce que... Donc voilà, enfin, je vais finir là-dessus. Donc on a plutôt parlé de comment créer son propre équilibre une fois qu'on a accepté qu'on ne peut pas tout changer tout seul et que du coup, bah, on va se réveiller quand même chaque matin dans un monde qui ne correspond pas à 100% à nos valeurs. Comment on fait la paix avec ça et comment on trouve une forme de paix et de liberté sans avoir l'impression non plus de rendre les armes et de baisser les bras et de soutenir même peut-être un système avec lequel on n'est pas en accord. Grande question, hein, je dis pas que j'ai la science infuse et la réponse à toutes ces questions, mais c'est les discussions et les questions qu'on a eues. Et donc lui, sa démarche était hyper intéressante. En fait, il m'a dit, lui non plus, il avait... comme tout le monde, moi y compris, c'était pas extrêmement clair comment ça allait se passer. Et lui, il pensait que ça allait être 5 femmes, du coup, les livres vivants sur scène, qui racontent leurs trucs, et le public qui peut poser des questions. Il s'attendait pas du tout à un truc aussi interactif et en tête à tête. Et il m'a dit, bah, j'ai amené un carnet et un stylo parce que je voulais prendre des notes, et finalement, j'ai rien pris comme notes, parce que juste, j'ai parlé avec les gens et c'est cool. Et je lui ai dit, ok, bah, pourquoi tu comptais noter? Et il m'a dit, en fait, il a un enregistrement audio, de sa grand-mère, qui lui raconte sa vie, sa grand-mère qui est maintenant décédée, et qui apparemment a une vie de fou, il a une personne de sa famille qui aimerait peut-être en faire quelque chose, le faire éditer, publier, ou en tout cas le mettre au propre. Donc il est actuellement en train de transcrire à l'écrit cet enregistrement audio, et il m'a dit, bah, du coup, je voulais venir écouter des femmes qui racontent leur vie, parce que je me suis dit que ça m'aiderait à savoir comment mieux raconter, raconter au mieux celle de ma grand-mère, parce que moi je suis pas une femme et tout, et j'étais là, trop chouette comme démarche, en vrai. Trop chouette déjà de faire ça. Moi, j'avais fait ça avec les mémoires manuscrites de mon grand-père, inachevées, malheureusement. Il est décédé avant de les avoir finies. Et mon grand-père avait une écriture de personne de son âge, c'est-à-dire, un peu patte de mouche. Et j'avais passé un été, quand j'avais 20 ans, à les taper dans un Google Doc pour qu'elles soient accessibles à toute la famille. Et je l'avais envoyé à toute la famille. Donc, on a quand même une partie de l'histoire de mon grand-père qui est là-dessus. Donc, j'aime bien la démarche. Et c'est un truc que j'aimerais bien faire, notamment avec ma famille marocaine, de recueillir leur récit de vie, leur chemin personnel, peut-être en audio, et au moins de les avoir, pas forcément de les rendre publics et d'en faire un podcast et tout, mais ça pourrait être intéressant, maybe. Mais au moins de les avoir et que ces histoires, elles existent quelque part, parce que bah, j'ai une famille qui ne rajeunit pas, hein, où il commence à y avoir pas mal de personnes âgées, et je me rends compte qu'il y a plein de pans de leur vie que je connais pas, parce que bah, on a 40 ans de différence, et parce que j'étais petite pendant une bonne partie de leur vie, parce qu'aussi il y a peut-être une forme de pudeur, et bah, il y a aussi des choses que j'imagine, moi je peux pas me représenter ou déduire clairement, parce que c'est un autre pays, c'est pas exactement la culture dans laquelle j'ai grandi, donc c'est quoi la vie de mon tonton quand il avait 20 ans dans les années 70 au Maroc? En vrai, je sais pas, et j'aimerais bien savoir. Donc bon, j'ai grave aimé la démarche de ce gars-là. Et en dernier, j'ai eu une femme plus âgée, puisqu'elle a 2 enfants, dont un qui est quasi trentenaire et l'autre qui est vingtenaire. C'est un peu dur de lui donner un âge, mais voilà, elle avait cheveux un peu gris et plus âgée, d'origine asiatique. Et je le précise parce qu'elle m'en a parlé dans... en gros, elle est arrivée vraiment une petite meuf, ultra déter, genre haute comme 3 pommes, plus petite que moi, ce qui est rare. Et en vêtements sportswear randonnée, et vraiment une énergie, quoi. La go, elle est énergique. Donc elle était arrivée en mode, ok, chop chop, parle de liberté et tout. Et donc je lui ai dit, bah, c'est quoi, ça t'évoque quoi, la liberté? Elle m'a dit, moi j'ai toujours été libre. Et je me suis toujours pris des baffes parce que j'étais libre. Et je suis quand même libre. J'étais là, slow clap, c'est bon. Tout est dit, bravo madame. Et du coup, bah, on a parlé de ça, de comment elle s'est toujours sentie. Elle a toujours eu des envies de liberté et de ne pas se conformer aux codes rigides que sa famille, la société en général, mais aussi, c'est elle qui m'en a parlé, la communauté dont elle est originaire, imposée en termes de parcours de vie, de vision des choses et tout, et que pour elle, se libérer de ça ne s'est vraiment pas fait sans heurte et sans même potentiellement conséquences sociales, mais que pour elle, sa liberté a toujours été plus importante que tout. Et j'étais là, c'est fou, genre, d'où ça te vient, puisque visiblement, t'as pas été élevée dans cette idée de c'est bien d'être libre, t'as plutôt été élevée dans cette idée de c'est bien de suivre les règles et de faire ce qu'on dit de faire. D'où ça te vient, du coup, enfin, c'est toute la question de l'inné et l'acquis, quoi. D'où ça lui vient, cette envie dévorante de liberté. Mais grave intéressant, du coup. Trop bon événement. Et du coup, bah voilà, on a parlé de ça avec cette meuf, et c'était la dernière, et après, je suis allée boire des coups avec des potes, et j'étais là... Qu'est-ce que je viens de vivre, finalement ? Incroyable ! Camille Ruff demande « Coucou Mimi, comment tu fais pour te protéger de la dureté de ces récits dans ces moments ?» Alors là, ça allait, c'est-à-dire, oui, j'ai eu des récits de vécu de harcèlement de rue, de harcèlement sexiste, de harcèlement lesbophobe, et certaines personnes qui m'ont amené voilà, des éléments un peu tragiques de leur vie. Mais déjà, c'était rien d'insurmontable. Alors non j'ai eu un récit quand même. Une des personnes qui est venue, mais c'est sa vie, je vais pas vous la raconter, hein, c'est un peu trop privé, avait quand même, pour le coup, un vécu traumatique, mais sur lequel la personne s'est pas appesantie. C'était juste genre, c'est un truc qui fait partie de ma vie et qui m'est arrivé, et c'était dans le cadre de « je t'explique mon rapport à la liberté » aussi en te parlant de ce truc qui a un lien avec mon rapport à la liberté. Alors voilà, donc il y a eu quelques récits d'éléments traumatiques ou de discrimination, mais qui étaient jamais amenés comme... Ok, je te pose ça là, je te fous mes tripes sur la table et je te laisse te démerder, voire j'attends de toi que tu m'aides à traverser ça, ce qui est évidemment pas du tout mon boulot. Il y avait pas d'attente de ok, fais ma thérapie, j'ai vécu ça, est-ce que c'est normal? Ça fait partie de ma vie, j'ai eu ce vécu et ça colore du coup mon rapport à la liberté et mon parcours personnel. Mais en général, c'était une vraie problématique, notamment quand je travaillais chez Mademoiselle. Comment on recueille la parole des victimes diverses et on lui donne la place qu'elle mérite et on en prend soin, tout en ne faisant pas un burn-out de lire tous les matins des témoignages d'inceste. Et il n'y a pas de réponse simple à cette question compliquée. Pour moi, la solution la plus évidente, c'est de répartir déjà les tâches, que ça soit pas la même personne qui s'occupe de lire tous les témoignages d'inceste, de s'écouter. Quand on est confronté à ce genre de récit, de savoir quand le corps et le cerveau disent « maybe là c'est trop » et de savoir se protéger, en fait la cause ne va pas gagner à vous épuiser à la tâche et vous finissez en burn-out militant. La cause ne va pas gagner à vous lisez tellement de récits de violences gynéco et obstétricales que vous osez plus aller chez le docteur et qu'un jour vous allez avoir un problème qui n'est pas détecté. La cause a gagné à avoir des gens qui luttent pour l'égalité, qui sont en forme, qui sont épanouis et qui le font avec une énergie, qui ont de l'énergie pour le faire. Donc en fait, je pense qu'il faut savoir s'écouter et dire là c'est trop et je vais faire une pause là-dedans. Chez Mademoiselle, j'étais vigilante notamment au poste de chargée des témoignages, qui est du coup pour le coup la personne qui, dans sa boîte mail, a tous les lundis matin des témoignages d'inceste, et au poste de social media manager, qui est aussi en but, un peu comme l'équipe vidéo aussi pour tout ce qui est commentaires YouTube et TikTok, mais la social media manager est en but à non seulement aussi des récits traumatiques qui peuvent être envoyés en DM sur Insta ou des choses comme ça, mais aussi la haine en ligne qui vise Mademoiselle, mais qui du coup... Moi, en tant que rédactrice en chef, j'allais pas lire tous les DM du compte Instagram Mademoiselle, je n'ai pas ce temps. Par contre, la social media manager les lisait. Et dans le lot, il y a des insultes, de la misogynie, de la lesbophobie, du racisme, des menaces parfois. Toutes les belles petites choses qui se passent parfois quand on donne à tout le monde un mégaphone et qu'on leur dit parle dans l'espace public. Mais liberté d'expression forever néanmoins. Donc j'étais assez vigilante à la pénibilité de ces deux rôles. Et c'est quelque chose dont je parlais notamment dans les entretiens d'embauche et les entretiens réguliers avec la chargée des témoignages. On essayait aussi de varier, entre guillemets, de ne pas... Il y a aussi un problème, un des pièges, c'est que quand tu... Historiquement, sur Mademoiselle en tout cas, quand on publiait un témoignage sur un thème, mécaniquement, on en recevait une certaine vague derrière, parce que les gens disaient « Ah, il raconte une histoire qui ressemble à la mienne, donc mon histoire peut les intéresser », ce qui est logique. On sait que, par exemple, si on publie un témoignage sur l'inceste, on va recevoir 10 témoignages sur l'inceste. Et en fait, c'était aussi dans le poste et l'organisation de la chargée des témoignages de « Déjà, ça n'a pas de sens en tant que média, sauf si on décide de faire un moment... un dossier sur l'inceste avec différents types de récits, de témoignages et d'autres types de papiers. Ça n'a pas de sens de publier un témoignage sur l'inceste un mardi, un mercredi, un jeudi, parce que il faut éloigner un petit peu les sujets. Et du coup, on essayait d'alterner avec des témoignages plus légers, plus positifs, ou qui parlent de trucs genre la vie pro, des trucs d'amour, des trucs sexo, des trucs qui parlent d'argent, enfin des trucs qui parlent du reste de la vie, pour aussi que la chargée des témoignages ne passe pas sa semaine entière à éditer des récits d'inceste, à parler à des victimes d'inceste et tout. C'était aussi important de bien baliser le... recueillir la parole surtout traumatique d'une personne, parfois elle attend beaucoup de toi et plus que ton rôle qui est de journaliste. Donc c'était aussi bien balisé, genre ne pas donner ton numéro perso, ne pas rentrer en contact, en fait c'est ton travail, il faut que ça reste ton travail. Et tu peux être tenté, parce que ça arrive des fois qu'il y ait une meuf qui t'écrit à 23h en disant c'était bien de te parler pour l'article de Mademoiselle, mais ça a fait remonter plein de trucs, je suis en crise d'angoisse et tout, et t'es là en mode on ne se connaît pas, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, je suis désolée. Et en même temps, bah, nous, en tant que médias, on veut recueillir et partager son histoire, on veut en prendre soin, et on a un peu signé pour ça aussi. Pas pour devenir la psy des gens, parce qu'on n'est pas leur psy, mais on sait que ça fait partie du deal, et ce serait hypocrite de dire oui, on voudrait recevoir des paroles de victimes, mais par contre, qu'elles mettent pas trop d'enjeux derrière, parce que c'est chiant pour nous. Donc voilà, c'est tout un équilibre à trouver, que je pense, en tout cas, quand j'étais en poste, voilà, j'ai pas vu de chargé des témoignages partir en burn-out, ni de social media manager, donc je me dis, touchons du bois, j'ai dû pas trop mal m'en sortir, mais c'était un encadrement spécifique, et on en a parlé aussi avec les premières meufs, du coup, qui sont venues hier écouter mon livre Vivant. C'est-à-dire parler de liberté avec moi, de ce truc de saturation, d'être confronté en permanence à des contenus féministes, qui est cool, mais qui sont souvent des contenus traumatiques, qui parlent de violence, des chiffres de féminicide, des sorties sexistes, des horreurs en fait du patriarcat, et d'à quel point moi je préfère compartimenter. Par exemple, sur Instagram, je ne follow pas de compte féministe, ou très peu, parce qu'en fait, quand j'ouvre Instagram, j'ai pas envie de savoir s'il y a eu un nouveau féminicide en France ou pas. Quand je veux m'informer sur l'actualité avec ce qu'elle comporte de violence sexiste, je vais lire l'actualité. Je sais pas à quel moment on a demandé que sur tous les réseaux on mettrait tout à la fois, mais moi j'aime bien compartimenter. Sur Twitter, je vais avoir plutôt pour le coup des news, des journalistes et de l'art. Sur Instagram, j'ai mes proches et de l'art, des dessins de gens tout nus principalement. Facebook, n'en parlons pas parce que je suis pas sur Facebook, mais voilà, enfin, on n'est pas obligé de tout mettre dans le même panier. Et y a une des jeunes femmes qui était là qui m'a dit oui, moi c'est en fait j'en peux plus d'ouvrir Instagram et de voir des choses horribles, et ça me fait vraiment de la peine, ou TikTok ou quoi. Et en même temps, elle m'a dit j'ai l'impression que je leur dois aux victimes de lire tout et d'écouter leurs vidéos et de recevoir leurs témoignages. Je suis là, tu leur dois pas ça, tu leur dois de croire en ce qu'elles racontent, tu leur dois de, si tu le sens et que t'en as envie d'amplifier leur voix, tu leur dois de respecter leur vécu et leur récit, tu leur dois pas de tout lire et de tout consommer, parce que once again, ça ne va pas aider la cause d'avoir des soldats en burn-out. Donc, mais il y a cette culpabilité de peut-être je suis une mauvaise féministe si je ne fais pas ce travail, peut-être que, enfin, de quel droit moi je voudrais me protéger des horreurs qui ont été vécues par autrui, c'est-à-dire si cette personne les a vécues, moi je peux bien les écouter. En fait, on n'est pas toujours obligé d'écouter les paroles traumatiques. On est toujours obligé quand on les reçoit. Après, c'est aussi genre, c'est des gens que vous connaissez pas, c'est sur Internet. Si quelqu'un dans votre vie dit j'ai vécu un truc et il faut que je t'en parle, je vous encourage à l'écouter pour le coup. Mais vous n'êtes pas obligé de lire des témoignages de transphobie, d'homophobie et de sexisme toute la journée sur Internet pour être une bonne féministe ou un bon féministe, je pense. En tout cas, moi, je ne le fais pas et je ne pense pas encore être traîtresse à la cause, même si d'aucuns et d'aucune le pensent peut-être. Ce n'est pas grave qu'ils viennent me chercher. Donc voilà, moi, je me protège de la dureté de ces récits, en partie en compartimentant et en fait en allant les chercher quand j'en ai envie, plutôt que de les subir parce qu'ils me sont envoyés à la gueule. C'est pas une science exacte, ça peut toujours arriver. Mais et puis par exemple, bah, dans la rue aussi, on a les collages féministes, on a maintenant des grosses affiches de stand-up, là, le truc de la Fondation des Femmes et L'Oréal contre le harcèlement de rue. On fait des affiches en 4x3 contre le harcèlement dans l'espace public qui sont dans le métro. Donc je ne suis pas des œillères par rapport au fait que oui, le patriarcat existe toujours et c'est toujours chiant. Mais l'aspect traumatique de cette réalité, je préfère choisir quand je m'y confronte, tout simplement. Il y a peut-être aussi un truc d'habitude. 10 ans chez Mademoiselle, j'ai malheureusement, parce que j'aimerais que ça n'existe plus, mais bon, ça faisait partie de mon travail de lire, d'écrire, de publier, d'éditer, de creuser des récits traumatiques. Donc quelqu'un qui me dit j'ai été victime d'inceste, bon, c'est pas que ça me touche pas, bien évidemment, mais c'est moins un choc de ah oui, putain, l'inceste existe, que ça a pu l'être peut-être la première fois que quelqu'un m'a dit j'ai été victime d'inceste, où j'étais vraiment en mode waouh. Je ne sais pas quoi faire de cette information. Donc je suis pas blasée, mais je suis, je pense, peut-être plus pragmatique et je prends du recul un peu plus facilement de par mon expérience de féministe professionnelle, finalement, et de journaliste. Et voilà. Et du coup, bah, après, voilà, c'est aussi pas... Les gens qui étaient là hier ne sont pas venus dans une démarche de « bonjour, j'ai envie que tu sois ma psy », quoi. Donc, c'était un échange. Il y avait des éléments traumatiques dedans, mais il y avait aussi d'autres choses. Et c'était cool. Alors, Aruma dit « J'ai tout migré sur un compte spécifique pour ces veilles féministes, de remise en question et documentaire, parce qu'à une période, ça commençait à me grignoter fort le moral. Et depuis, je n'y vais quasiment pas, et pourtant, j'apprends toujours. So, is okay. » Yes, Aruma, c'est une bonne idée, comme dit Yulin. Et c'est un truc que j'ai fait fut un temps. J'avais un compte Twitter qui servait de veille et du coup qui n'était pas mélangé avec mon compte Twitter personnel. C'est un truc que j'ai conseillé à ces meufs-là, de dire en fait vous pouvez vous faire un compte, parce qu'on parlait plutôt de TikTok, car je suis une vieille personne. Rappelez-vous que les jeunes sont sur TikTok. Je lui ai dit bah tu peux te faire un compte TikTok dédié à ces sujets autour des LGBT-phobies, autour du sexisme, etc. Et comme ça l'algorithme de ce compte va l'enrichir avec ce genre de contenu, et t'y vas seulement quand tu veux être confronté à ça, quand tu veux t'informer et tout. Et t'as un autre compte perso où tu essayes de ne pas t'attarder sur ce genre de contenu, comme ça l'algorithme ne te les propose pas trop, et où tu mets le reste de la vie que t'aimes bien et qui en fait te déprime pas. C'est possible. On n'est pas obligé de prendre le monde en frontal toute la vie, parce que je pense que ça épuise vite. C'est ok d'avoir du temps pour soi et des filtres et des bulles différentes dans lesquelles on va pouvoir avoir un endroit safe ou se ressourcer aussi, quoi. Si dès que vous ouvrez un réseau social ou internet en général, dès que vous prenez votre téléphone, vous êtes là, ok, let's go sur l'horreur du monde en intraveineuse, maybe, c'est comme ça qu'on finit à ne plus avoir l'énergie de lutter. Genre moi, j'ai pas les alertes des sites d'infos sur mon téléphone, hein. Enfin, je sais pas qui fait ça, franchement. J'ai zéro besoin d'avoir une alerte info, le monde, telle ville a sauté en Ukraine, je suis là... Pfff. En fait, moi, j'étais juste en train de regarder Ted Lasso, là. Maintenant, je pense à la guerre en Ukraine et je suis en anxiété. Et je suis pas sûre que ça va faire du monde un endroit meilleur que je sois en anxiété là tout de suite. Et que ça va faire quoi que ce soit pour lutter contre la guerre en Ukraine. Donc, s'informer, oui. Se tenir informé, oui. Ne pas mettre la tête dans le sable et dire là, 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 tout va bien dans le monde, oui. Mais pourquoi décider de prendre l'info en bip aléatoire sur ton téléphone, quoi? I don't get it. S'il se passe un truc vraiment grave, je le saurai. S'il y a, je sais pas, une catastrophe à Paris ou whatever, je le saurai. Des gens m'appelleront, je vais régulièrement sur les réseaux sociaux, je passe ma vie sur Internet, genre j'aurai l'info, j'ai pas besoin de l'avoir en immédiatement avec une notif. Et en plus, il y avait un truc de... Attendez. Les reptiliens. Pendant le Covid, ils avaient fait un truc où genre le gouvernement, il avait envoyé à tout le monde un texto. Genre l'intégralité du peuple avait reçu un texto du gouvernement qui disait, je sais plus, les mesures Covid et tout. Donc si jamais il se passe un truc de type catastrophe nucléaire, mon gars, j'aurais un texto de Macron. J'avais pas besoin d'avoir les alertes du monde, quoi. Un jour, quelqu'un m'a dit, tu es ma notification préférée. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Je l'ai noté. J'ai... digression, mais quand est-ce qu'on arrête de digresser? J'ai une note dans mon téléphone qui s'appelle « Truc à mettre dans un livre », où je note des moments et des phrases et des choses qui m'évoquent. Oh, c'est beau, ça irait bien dans un livre. C'est un bordel, il y a tout et rien. Notamment, il y a une ligne qui dit « La meuf qui aime... la croûte et le garçon qui aime l'ami », parce que j'ai vu un couple quand j'étais en vacances en Sicile avec mon gars. On était au resto, il y avait un jeune couple à côté de nous, et enfin un couple de personnes plutôt jeunes, quoi, vingtenaires. Et le mec, il a enlevé toute la mie de son pain, il a gardé que la croûte, et il a donné la croûte à sa meuf, qui elle avait déjà mangé toute sa croûte et enlevé la mie. Et je suis là, oh, il sait que la croûte c'est sa partie du pain préférée. Et du coup, elle a même pas eu besoin de lui demander, il a juste tout de suite enlevé la croûte de son pain pour lui donner. Et j'étais là, maybe il aime pas tant l'ami, mais il lui donne sa croûte quand même. Et j'étais là, c'est trop chaud. Du coup, je l'ai mis dans ma note, truc à mettre dans un livre. Et j'ai mis dans cette note, tu es ma notification préférée. Chose qu'une personne m'a dit une fois, j'étais very mignon. Qui active toutes ces notifications d'appli hormis les SMS et 2-3 apps de messages? Perso, je comprends pas. Same, Aruma, j'ai très peu de notifications. Mon téléphone n'a pas sonné depuis 1992, puisque je suis en silencieux forever. Et pourtant, je suis en permanence en DM, sur Twitter, sur Reddit, en train de scroller. Genre, je passe ma vie sur mon téléphone. Vraiment, toutes les semaines, Apple me dit, girl, la notif temps d'écran, là, c'est chaud. Et je lui dis, je ne veux pas de ta notif, arrête de m'obliger à l'avoir. Je suis en temps pour soi sur mon téléphone. Crary, ça limite un peu les notifs et tout, mais moi c'est juste parce que ça me fait chier et que j'ai pas besoin d'avoir les notifs. J'ai mon téléphone dans la main toutes les 18 secondes. C'est un message, je le verrai, quoi. J'ai fini de vous raconter cet incroyable moment que j'ai vécu à la maison de la conversation. On se voit bientôt pour Succession, bientôt pour du jeu vidéo. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir été là, c'était super. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préférée. Si vous voulez encore plus de Mimi dans vos oreilles, vous pouvez retrouver mes débriefs de séries sur le flux Mimi Hegel débrief les séries, tout simplement.
m'écouter avec la créatrice de contenu Marie Kigaï chaque mardi dans le podcast BFF et me retrouver tous les dimanches en compagnie de Fabrice Florent dans notre podcast cinéma Le Film Club. Tous les liens sont dans la description. Merci à Valentin Nortier pour le générique et à Pop Music Production pour le montage. Et très belle journée.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.